Nous avons traversé jusqu'à présent l'ensemble des chapitres 1 à 12, la première grande partie de l'Évangile, la vie publique de Jésus qui nous conduit à sa troisième Pâque, au début du chapitre 12 déjà. Je rappelle brièvement ce qui précède. La première section de cette vie publique nous mène à sa deuxième fête de Pâques, au chapitre 6, verset 4. La première fête de Pâques, c'était lors de sa première montée à Jérusalem en 2:13-25, avec le coup de force au temple. Les signes faits par Jésus, ses autres gestes et les discours qu'il a tenus ont vite conduit à vouloir le mettre à mort, et cette condamnation plane sur lui, en particulier depuis la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda au chapitre 5, verset 18. L'Eucharistie a été anticipée dès l'épisode des pains et le discours sur le pain de vie qu'il a suivi, au chapitre 6. En ce sens, le prologue hymnique s'est vérifié à plusieurs reprises. Vers ses choses propres il vint, et ses gens propres ne l'accueillirent pas. Chapitre 1, verset 12. Les circonstances ont appris que les disciples ne valaient pas mieux que les autres. Ils ont bien de la peine à suivre Jésus sur ses chemins déconcertants, dangereux et douloureux. L'Écriture, certes, leur sert de point de repère, mais il est répété qu'il a fallu la résurrection pour que ces chemins s'éclairent vraiment. Et pourtant, l'Écriture est déjà pétrie de cette sagesse divine qui défie le bon sens humain. C'est la grande école d'une lumière qui brille dans la nuit du monde, que ce soit chez les prophètes, surtout Isaïe, mais aussi pour l'alliance de la Torah et pour les psaumes. Les disciples se sont mis à croire peu à peu et ont été formés à un engendrement de Dieu, chapitre 1, verset 13, par Jésus, le Fils unique du Père. Mais il s'en faut de beaucoup que tout soit acquis. Et l'on se demande bien quand et comment tout cela va finir. La deuxième section de la vie publique, qui nous conduit des chapitres 7 à 12, culmine donc dans la troisième et dernière Pâque de Jésus, chapitre 12, verset 1. Nous entrons à présent dans la deuxième grande partie de l'Évangile, que j'intitule volontiers « La mort de Jésus ». La résurrection jaillira de cette mort elle-même, des chapitres 13 à 21. Et pour ouvrir ce chapitre 13, nous avons donc cinq versets qui peuvent être lus d'une traite comme une sorte de prologue à la passion, la mort et la résurrection, un peu comme les cinq premiers versets du prologue hymnique servaient de prologue au prologue, et donc aussi de prologue à non seulement la première grande partie de l'Évangile, mais à tout l'Évangile. Ce chapitre 13, comme le prologue, sont les textes les plus étudiés du quatrième Évangile. Dès sa mise en circulation, le chapitre 13 est apparu essentiel par la place qu'il occupe à l'ouverture de la passion, mort et résurrection. Donc, il récapitule ce qui précède et il oriente ce qui va suivre. Ce procédé littéraire de la reprise de ce qui a déjà été vu et de l'anticipation de ce qui est encore à voir est permanent chez Jean. C'est avec une telle économie de mots et d'expressions, rendue par le fait même d'autant plus dense, une telle sobriété de ton jointe à une telle intensité dramatique, que ce chapitre apparaît comme un chef-d'œuvre de la littérature universelle et un sommet de la révélation biblique. Voyons comment dans le détail. Les 5 premiers versets du prologue hymnique, je viens de le rappeler, le condensaient tout entier, mais délivraient aussi le sens de l'Évangile. Il en va de même pour les 5 premiers versets de Jean 13 qui délivrent le sens de tout ce qui va suivre. On pourrait en parler comme d'un prologue de la Passion. C'est en tout cas l'indice d'un nouveau commencement. Mais il est mis à l'enseigne de la fin. Cette fin est conforme au commencement, par quoi s'ouvrait le prologue hymnique. Il en évoque le contenu latent. Le commencement en reçoit aussi des prolongements inattendus, conformes pourtant à certains pressentiments. Et ces versets 1 à 5 du chapitre 13 peuvent être lus d'une traite, sans point avant le dernier mot du verset 5. Je rappelle que le texte original, le plus ancien en grec, ne contient ni majuscule ni minuscule, ni ponctuation, ni subdivision en chapitres et versets. Il est écrit en majuscule dans les manuscrits que l'on appelle onciaux pour cette raison. Oncial se dit d'une écriture dérivée de la capitale, assez grasse, arrondie, nous dit le Larousse illustré. Toute intervention ultérieure dans et sur le texte véhicule une part d'interprétation, donc la ponctuation que nous allons adopter reflète aussi une interprétation. Et je vais relire ces 5 premiers versets pour que nous en ayons une mémoire fraîche. Or, avant la fête de la Pâque, sachant Jésus que vint son heure afin qu'il passe de ce monde auprès du Père, ayant aimé ses gens propres, ceux qui sont dans le monde, pour un achèvement, il les aima, et un repas devenant, le diable ayant déjà jeté dans le cœur qu'il le livre Judas de Simon Iscariote, sachant que toute chose il les lui donna le Père dans les mains, et qu'à partir de Dieu il sortit et auprès de Dieu il part, il se relève du repas, et il pose les vêtements, et ayant pris une serviette, il se ceignit. Ensuite, il jette de l'eau dans le bassin, et il commença à baigner les pieds des disciples et à les essuyer de la serviette dont il se trouvait saint. Tous les mots sont pesés. Ils sont choisis, comme toujours, de l'intérieur d'un vocabulaire restreint. Ils réussissent à créer une atmosphère empreinte de simplicité et de solennité entre des partenaires qui ne se limitent pas au monde ni à l'humain, puisqu'il est question du Père et du diable. C'est le propre des relations humaines qui tissent la convivialité au cours d'un repas, mais la surprise vient de l'inversion des rôles attendu entre Jésus et ses disciples. Ces mots méritent d'être suivis avec soin. Tout se passe à un moment significatif. Non pas le jour de la fête de Pâques, mais un jour avant la fête de la Pâque. La circonstance de temps est significative. Il ne faudrait pas trop vite penser que ce dont il s'agit est le repas pascal proprement dit. Jésus a pleine conscience de ce qui se joue. ce qui exprime à deux reprises le même participe présent, sachant, au début et au centre des versets, au verset 1 et au verset 3. L'étymologie du mot « pesach » en hébreu demeure incertaine. Le texte l'identifie ici comme l'acte de passer, metabainein, de ce monde au Père. C'est un verbe de déplacement que nous avons déjà rencontré. Par exemple, en 7.3, les frères de Jésus lui enjoignent de passer de la Galilée pour partir vers la Judée. Mais à deux reprises, en Jean 5.24, au cœur de la première unité du premier discours de la parole, ce qu'on en appelle souvent le discours sur l'œuvre du Fils, et aussi au cœur de la première lettre de Jean, en 1 Jean 3,14, ce mouvement prend le sens spirituel de passer de la mort à la vie. C'est le double sens qu'il prend ici en délivrant une des significations de la Pâque, qui est de passer de la servitude au service, pour reprendre le titre du livre de Pierre Auzoux au sujet de l'Exode. En l'occurrence, pour Jésus, il s'agit de passer de la mort à la vie en anticipant une fois de plus sa mort violente, paradoxalement victorieuse de toute mort. Pour la seule et unique autre fois dans l'Évangile, nous retrouvons les siens, hoi idioi, que nous avons vu au verset 11 du prologue hymnique. Il désigne ici sans doute les disciples cités au verset 5 de ce chapitre 13. Il commença à baigner les pieds des disciples. Mais les siens visent plus largement l'humanité tout entière qui tient son être du logos, du verbe, de la parole de l'origine de tout en Dieu. Réminiscence de Jean 1.1, le début du prologue hymnique. Le monde revient aussi à deux reprises au verset 1 avec un sens positif en situant la portée cosmique de l'événement qui se déroule et qui condense, pour ainsi dire, la destinée de Jésus, des siens et de ce monde. Mais nous voyons apparaître à présent la fin, télos, complémentaire du commencement, arché, et de l'origine. Ce mot grec, télos, qui ne se trouve qu'ici dans l'Évangile, c'est un apax de l'Évangile, ne se trouve pas dans les Épîtres. L'Apocalypse l'utilisera deux fois au chapitre 21 et 22. Là, il y est couplé avec l'arché, le commencement. Celui qui est assis sur le trône me dit, c'en est fait, moi je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Apocalypse 21, 6. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, Apocalypse 22, 13. Dans le premier texte de l'Apocalypse, c'est Dieu, le Père, qui parle. Dans le second texte de l'Apocalypse, que je viens de citer, c'est Jésus qui parle. Donc, Père et Fils sont mis à l'enseigne du commencement et de la fin. La fin est appliquée à celui qui siège sur le trône, à un personnage complexe, à la fois un serviteur esclave avec Jean, sun doulos, dit le texte, mais c'est un personnage un peu polyvalent, c'est aussi le Seigneur en personne. Le texte en appelle donc à une interprétation pour être bien compris. Je n'ai pas le temps de m'en expliquer plus longuement, mais ce personnage qui renvoie à Dieu, de façon remarquable, se met à la dernière place, et en tout cas cette fin ne laisse désormais plus aucun doute dans l'Évangile, et au début donc de ce chapitre 13, c'est la fin de l'agapane, de l'aimer, de l'amour, la fin au sens d'achèvement. Il s'agit de l'amour de cet homme Jésus pour le Père, concrétisé dans son amour pour les siens. Ce long verset 1 a une portée totalement positive. Or, avant la fête de la Pâque, sachant Jésus que vint son heure afin qu'il passe de ce monde auprès du Père, ayant aimé ses gens propres, ceux qui sont dans le monde, pour un achèvement, il les aima. Le « et » kai du verset suivant, « et un repas devenant » peut s'entendre comme un « mais », donc en contraste avec le contenu positif du verset 1. Il introduit en effet une ombre au tableau qui va l'envahir au point de conférer à ce chapitre une tonalité dominante assez sombre. Il introduit un repas qui devrait inviter à la convivialité, à une sorte de familiarité confiante. Or, c'est tout le contraire. Le repas devient le lieu d'une activité qui frappe un des disciples avant de semer le trouble à travers lui dans tous les autres. Les détails de la phrase déjouent la lecture spontanée que l'on se fait et du diable et de celui en qui il opère. C'est en fait le diable qui place en son cœur, à lui, le diable, le projet chez Judas de livrer Jésus. Je relis rapidement le verset. Et un repas devenant le diable ayant déjà jeté dans le cœur qu'il le livre Judas de Simon Iscariote. Ce projet donc de la trahison, difficile à bien cerner d'ailleurs, nous allons y revenir, concerne donc au premier chef le diable et non Judas qui s'en trouve jusqu'à un certain point disculpé. Alors revenons sur le sens justement de ce verbe paradidomi, livrer, traduit-on habituellement. Le sens de ce verbe n'est pas que négatif ou péjoratif. C'est d'abord le verbe de la tradition avant que d'être celui de la trahison. Je veux souligner par là que le sens de trahir est donc second par rapport à celui de transmettre. Livrer consiste d'abord à faire passer dans le contexte Jésus auprès du Père dans le prolongement du verset 1. Il se fait que cette livraison est dramatique parce que le diable s'en mêle. C'est lui qui pervertit le passage, le don en passion, en antidon, mais sans réussir à entraver le don. Ce don en reçoit donc une valeur particulière de don onéreux, coûteux, qui lui confère tout son prix. Quelques mots à présent à propos de Judas. Judas, c'est le nom sans doute le plus prestigieux d'un des fils de Jacob. En français, Judas prend un S final qui vient de la traduction grecque « Judas ». En hébreu, il n'y a pas de S. Dans l'Ancien Testament, écrit en hébreu, justement, Jacob bénit ses fils au moment de mourir. Quand vient le tour de Judas, Jacob l'assure que ses frères le loueront. Tes frères te loueront. Genèse 49, 8. Le nom de Judas est donc un nomen omen, un nom présage qui provient de la racine verbale yada, qui au piel signifie louer, avec un ré final, à ne pas confondre avec yada qui au ifil signifie connaître, avec un aïn final. Petite précaution pour être le plus clair possible. Judas veut donc dire le louangeur, celui qui loue, surtout qui fait louer. Et ensuite, Judas est désigné comme le lion de la tribu de Judas. Genèse 49,9. Jésus reprend ce titre de lion de la tribu de Judas en Apocalypse 5,5. Judas est donc le fils de Jacob qui donne son nom au royaume du sud, le royaume de Judas, justement. C'est lui aussi qui donne son nom à la foi du peuple élu, le judaïsme. À ces divers titres, Judas réclame un traitement spécial qui est avant tout positif. Judas Iscariote démérite de son nom, mais ce nom n'en conserve pas moins son sens premier qui est positif, le louangeur. Iscariote, Iscariotès évoque vraisemblablement un village de Judée d'où vient Judas, Iscariote. Selon la tradition biblique, la sagesse de Dieu fait tourner tout au bien, même et surtout à travers les pires vicissitudes. L'importance accordée à ce qui se trame au verset 2 vient de ce qu'ici et ici seulement est levée une ambiguïté qui planait sur Judas depuis le chapitre 6, verset 70, où Judas semblait identifié au diable. « N'est-ce pas moi qui, vous les douze, vous élis, et d'entre vous, l'un, diable, il l'est ?» Judas est maintenant dissocié du diable comme le pécheur de son péché. C'est un premier fruit immédiat de cet amour pour un achèvement qui conclut le verset 1. Ceci vaut évidemment pour nous, nos actes nous suivent, mais la personne n'est pas réductible à ses actes, elle est le lieu d'un combat spirituel dont le Père seul en Jésus connaît l'issue. Le verset 3, cette fois, centre de ces cinq premiers versets initiaux, lève encore davantage le voile sur l'enjeu de l'événement. C'est une révélation de type apocalyptique qui force à distinguer encore mieux deux plans à tenir en considération. Le plan du dessein de Dieu et celui des événements historiques où ce dessein se déroule. Les implications du verbe « donner », « didomi » transforment la livraison, la trahison perpétrée par le diable en Judas. La deuxième occurrence du participe « sachant » que l'on a déjà rencontré une première fois au verset 1 et qui revient en tête du verset 3, appliquée une nouvelle fois à Jésus, souligne la conscience de ce qu'il a de ce qui se passe. Le Père lui donne tout dans les mains, y compris le rôle tant du diable que celui de Judas. La manigance diabolique et la défaillance humaine n'empêchent pas de comprendre, au contraire, que Jésus sort de Dieu pour retourner à Dieu. À vue humaine, ces deux composantes de la réalité semblent incompatibles. Que Jésus sorte de Dieu en étant l'objet d'un violent combat spirituel mis au compte de l'un de ses plus proches amis, mais en définitive lancé par son seul ennemi. Il n'est pas un homme, il n'est pas un personnage humain, c'est le diabolos. Je vais revenir sur le sens de ce terme dans un instant. C'est aussi le secret de la médiation de l'esprit qui concilie les inconciliables. Les pires obstacles ne font que renforcer la capacité du donateur et de son don à se communiquer eistelos définitivement. Et le sens de diabolos en sort à son tour affermi. C'est le diviseur, celui qui veut entraver la communion, l'amour qui va à son achèvement. Le substantif, le nom diabolos, vient de la racine verbale diaballein, jeté en travers, opposé à symballein, jeté avec, ensemble, symbolisé. Ce nom de diabolos, en grec, interprète le serpent de Genèse 3, dans le livre de la sagesse, livre écrit en grec, chapitre 2, verset 24. Et ceci se retrouve aussi en Apocalypse 12, 9. Il fut jeté donc l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou le Satan, comme il est appelé, le séducteur du monde entier, sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Apocalypse 12, 9. Donc, le diabolos, le diable, représente le mal qui ne vient jamais qu'après la création première, bonne de la bonté créatrice. Toute division en ce sens est appelée à être surmontée par une communion fondatrice destinée à rester bonne. Le sens des deux temps de la proposition principale du verset 3 « À partir de Dieu, il sortit et auprès de Dieu, il part » est clair à la lumière du contexte. Ce qui devrait enrayer l'amour lui sert en fait, pourrait-on dire, de combustible. L'obstacle est transformé en médiation parce que tout procède de Dieu et y retourne en Jésus. Les deux versets suivants, 4 et 5, conclusifs de cette ouverture solennelle du chapitre 13, en 13, 1 à 5, décrivent comment les choses se passent dans le concret des relations. Le verbe « se relever », il se relève du repas et « gaïretai » évoque la résurrection, car c'est un des verbes utilisés pour en parler dans le Nouveau Testament. Et gaïretai, et gaïro, et anistemi, qui donne anastasis, la résurrection. Il pose les vêtements, rappelle l'expression voisine, poser son âme, qui est venue à plusieurs reprises au chapitre 10 à propos du bon pasteur. Ce geste de dépouillement met Jésus en position de vulnérabilité et de dépendance. C'est une sorte d'équivalent johannique de la kénose paulinienne. Il s'anéantit lui-même. Se cindre d'une serviette met Jésus en position d'esclave au service d'un maître. Certains disent même d'esclave non-juif dans une famille juive. Le verset 5 détaille lentement les gestes. Jeter de l'eau dans le bassin, baigner, jeter de l'eau dans le bassin Nipter, le nom, et baigner Niptein, le verbe, de même champ sémantique, les pieds des disciples, afin de les essuyer de la serviette dont il était saint. Ce linge, l'ention, dont Jésus se saint et se sert pour essuyer les pieds de ses disciples, est encore un apax absolu de la Bible pour valoriser le geste unique de Jésus. Je veux dire par là qu'on ne trouve ce terme qu'ici dans toute la Bible. Jésus essuie les pieds de ses disciples comme Marie a essuyé ceux de Jésus lors de l'onction à Béthanie, chapitre précédent. À dessein, Jean n'utilise ce verbe que dans ces deux situations. Les pieds prennent de ce fait une importance primordiale. Fréquent euphémisme dans la Bible et dans d'autres cultures, cette description rappelle aussi la fonction de l'époux assurée dès le second témoignage de Jean. Le verbe, la parole, chair devenue, on peut dire aussi l'époux, se tait. Les gestes sont plus éloquents dans le silence. Au terme de cette longue phrase, nous n'en avons pas encore fini, deux questions connexes se posent. Quel est le sens exact de l'eau dont se sert Jésus à ce moment décisif de sa vie dans sa relation aux disciples qui représentent tous les siens? André Lyon, auteur d'un petit livre sur l'évangile de Jean dans la collection « Lire la Bible », dit qu'il coule beaucoup d'eau dans le quatrième évangile. C'est une eau versée en signe d'égard aux hôtes du repas, geste d'hygiène et de respect dans l'accueil. Elle baigne plus qu'elle ne lave. Le verbe « laver » est employé par Jésus un peu plus loin pour signifier que Pierre a déjà été lavé. Les loumenos, en 13-10, par une eau qui a suffi à cet effet. Il est pur tout entier. 13-10. Compte tenu de l'arrière-fond biblique de l'eau, elle symbolise aussi l'eau lustrale de la purification des péchés. La référence majeure à cet effet est le texte d'Ézéchiel sur le pardon des péchés dans le cadre de la Nouvelle Alliance, que nous avons évidemment déjà rappelé aussi à propos du baptême de Jean, qui est un baptême d'eau. Donc, le texte auquel je réfère d'Ézéchiel est en Ézéchiel 37, 22, 32. J'en relis les versets 25 à 27. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures et de toutes vos ordures, je vous purifierai. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. » Ce texte rend aussi le mieux compte de l'eau qui va sortir de la plèvre transpercée de Jésus en 1934, au moment du coup de lance. Et c'est d'ailleurs ce texte sorti aussitôt « Sang et eau » de Jean 19, 34, qui sert d'orient à toutes les allusions antérieures à l'eau dans l'Évangile et qui lui confère aussi peu à peu son sens ultime. J'avais évoqué deux questions, donc le sens de l'eau, mais dès lors, une deuxième question ne manque pas de se poser. À quelle fin Jésus se sert-il de cette eau au service de ses disciples? Plus qu'un simple lavage physique, le verbe « baigner », le substantif « bassin » et le verbe « laver » évoquent les purifications rituelles. Le verbe est utilisé, par exemple, pour se laver à l'eau de toute impureté contractée au contact d'un homme ou d'une femme en état d'impureté rituelle, dans le Lévitique. Nombreux cas en Lévitique 15 et 16. Le lavement des pieds en a reçu un sens sacramentel dans la tradition pour signifier plusieurs sacrements. Le baptême, la réconciliation, l'Eucharistie, la consécration presbytérale et même le sacrement des malades et l'extrême-onction. Ces multiples interprétations sacramentelles peuvent paraître un peu forcées. Elles ne peuvent en tout cas pas occulter la portée la plus fondamentale, la plus simple des gestes de Jésus en Jean 13, 1 à 5. Le geste du lavement des pieds porte en priorité sur la trahison de Judas, née dans le cœur du diable et transmise dans le disciple. Il a pour but premier de laver d'avance le disciple qui trahit, dominé par plus fort que lui. Ce qui se trame en Judas pourrait se tramer non seulement en chacun des 12, qui se mettent d'ailleurs tous en question dans les traditions synoptiques « Serais-ce moi, Seigneur ?» mais en chacun et chacune de nous. Nous avons tous à nous reconnaître en Judas, tenté, lâcheur, traître, aimé et pardonné de nos trahisons. Certes, on ne peut pas être purifié d'un péché que l'on n'a pas encore commis. Il ne faut pas non plus pervertir ce qu'il en est du pardon de Dieu, je serai toujours pardonné. Il ne faudrait surtout pas tenter Dieu, il me pardonnera bien toujours. Le geste de Jésus signifie, en ce sens donc, une prévenance unique dans la fidélité, la miséricorde et l'encouragement destinés à ne laisser personne désespéré de soi, ni d'autrui, ni de Dieu. L'évangéliste ne se préoccupe pas d'abord de Judas, il faut encore le souligner, il ne dira rien de son suicide, seul. Les Actes des apôtres de Luc le décrivent en détail. Judas sert à l'évangéliste pour célébrer la bonté du Seigneur. Grâce à cette générosité de Jésus, il s'agit d'inviter le croyant, tout lecteur, toute lectrice de l'évangile, à cette manière d'être et de se comporter de Jésus. Eh bien, nous allons faire une pause maintenant pour alors mieux lire attentivement la suite de l'ensemble de ce chapitre 13. Il fallait bien ce long prologue du chapitre 13 pour nous permettre maintenant d'avancer peut-être d'un pas un peu plus rapide pour arriver à la fin de ce chapitre 13 dans la deuxième partie de cette séance. Mais les points fondamentaux ayant été assurés, nous pouvons alors maintenant procéder à une lecture cursive un peu plus rapide. Après donc ces 5 premiers versets, les versets 6 à 11 du même chapitre 13 s'occupent du dialogue entre Simon-Pierre et Jésus. Relisons rapidement le texte pour l'avoir en mémoire, quitte à ponctuer cette lecture de quelques remarques déjà en cours de route. Il vient donc auprès de Simon-Pierre. Il lui dit « Seigneur, Seigneur, toi, de moi, tu baignes les pieds. » Il répondit Jésus et il lui dit « Ce que moi je fais, toi, tu ne le sais pas à présent. Or, tu connaîtras après ces choses. » Première difficulté, comment comprendre ces notations temporelles? Il lui dit, Pierre, sûrement non, tu ne baigneras pas de moi les pieds jamais. Littéralement, il faudrait même traduire Einstein Ayuna pour l'éternité. Il lui répondit Jésus, si éventuellement je ne te baigne pas, si je ne te baigne pas, on peut laisser tomber l'éventuel, tu n'as pas de part avec moi. Nouvelle question, le sens de cette part, méros. Il lui dit, Simon-Pierre, Seigneur, non mes pieds seulement, mais aussi les mains et la tête. Il lui dit, Jésus, et nous retrouvons alors le deuxième verbe que j'ai déjà évoqué, pour l'eau, celui qui se trouve lavé, n'a pas besoin, sinon quant aux pieds, de se baigner, mais il est pur tout entier. Et vous, pur, vous l'êtes, mais non pas tous. Il y a d'ailleurs deux lectures, deux leçons de ce verset, la version longue que j'ai lue et une version plus abrégée. C'est la traduction adoptée par le père Mola dans la Bible de Jérusalem. Qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, il est pur tout entier. Vous aussi, vous êtes purs, mais pas tous. Et je reprends le verset 11, car il savait celui qui se met à le livrer. À cause de ceci, il dit que non pas tous purs vous l'êtes. Donc, Pierre se cabre, il a de la peine à entrer dans ce jeu du lavement des pieds des disciples par Jésus. Et Pierre, c'est évidemment l'autorité institutionnelle, je le rappelle parce que nous allons voir apparaître un autre disciple à côté de Pierre, le disciple que Jésus aimait, qui représente un autre type d'autorité, un peu plus loin, pour la première fois dans le quatrième évangile. Mais donc, je reviens sur cette distinction entre ce que moi je fais, toi tu ne le sais pas à présent, tu connaîtras après ces choses. Souvent, dans la lecture d'autres détails de ce chapitre 13, les commentateurs sont tentés de sortir du contexte immédiat du chapitre 13 pour faire allusion, par exemple, à la passion, à la mort en croix et ou à la résurrection. Donc, pas à présent dans le contexte du chapitre 13, mais après ces choses, par-delà tout ce qui se trame dans ce chapitre 13. Eh bien, je crois qu'il faut faire attention à cela, parce que beaucoup de choses sont dites dans le chapitre 13 même, qui éclaire ce « après ces choses ». Notamment, le don de la bouchée de Jésus à Judas, qui va être suivi de la glorification du Fils de l'homme et du don du commandement nouveau. En tout cas, il y a à comprendre ces déterminations temporelles compte tenu de tout ce qui se trame de l'intérieur même du chapitre 13. Quant à la part, que j'ai aussi évoquée comme un élément important de ces versets 6 à 11, c'est d'ailleurs le terme qui arrive pratiquement au centre de ce dialogue entre Pierre et Jésus, « Si je ne te baigne pas, tu n'as pas de part avec moi. » Beaucoup sont tentés de mettre en rapport cette part avec ce que l'on trouve comme expression, par exemple, dans le psaume 16, au verset 5, « Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe, c'est toi qui garantis mon lot. » La part et l'héritage que prend Israël à l'élection dont il est l'objet de la part du Seigneur. Ici, d'abord en grec, part, chélek en hébreu est traduit par méris, par exemple dans le psaume cité. Ici, nous n'avons pas exactement le même terme, mais méros. Donc, à la limite, le terme est plus simple, est plus dépouillé, et il exprime la participation possible à travers le lavement des pieds de Pierre et des disciples à l'identité temporelle et aussi éternelle du Fils. Alors, quel est l'enjeu? Simon, Pierre, donc on reprend d'ailleurs les deux noms, hein, le premier et le nom transformé. Simon, Pierre est donc invité à une conversion radicale de ses représentations du Messie et de Dieu. Il semble avoir compris et renchéri non mes pieds seulement, mais aussi les mains et la tête. Et pourtant, sous peu, c'est bien lui qui va renier Jésus. Aussi, Jésus met-il un frein à son enthousiasme encore mal éclairé, comme du supplément d'information qui suit. Déjà, pure voulette, à cause de la parole que je vous ai adressée. Ça, il le dit au chapitre 15, verset 3. Ici, celui qui se trouve lavé n'a pas besoin de se baigner, il est pur tout entier, vous pur, vous l'êtes, mais non pas tous. Vous êtes pur tout entier grâce à la parole que vous avez déjà entendue. Anticipation de ce qui sera dit au cœur du discours de la scène. Mais ici, deux distinctions sont introduites. Celui qui a été lavé n'a pas besoin, sinon quant aux pieds, de se baigner, deux verbes différents, mais il est pur tout entier, vous pur, vous l'êtes, mais non pas tous. Donc, première distinction entre être lavé et être baigné. Deuxième distinction, vous, pur vous l'êtes, mais non pas tous. Vous, sauf un. Non pas tous. Sauf un, c'est déjà trop dire. Mais la suite le dit quand même, il savait qui le livre à cause de ceci, il dit que non pas tous pur vous l'êtes. Donc, tous bénéficient de la grâce spéciale réservée en priorité aux autres êtres, ce qui est en général peu perçu, sinon occulté. Et donc là, il y a vraiment une précision importante à porter, je rédigeais le texte pour bien préciser l'enjeu. L'action de Jésus ne s'oriente pas dans le sens de l'exclusion d'un seul pour protéger les autres, mais au contraire de leur lavement des pieds à tous pour n'en exclure aucun. On pourrait encore s'en expliquer plus longuement, mais j'avance après avoir levé les difficultés principales de ces versets 6 à 11, que l'on a parfois désigné comme une interprétation sacramentelle du lavement des pieds, distincte de l'interprétation morale qui suit, et nous allons voir en quoi consiste, disons, cette interprétation morale, essentiellement dans le don d'un exemple. Je lis les versets 12 à 17. Quand donc il eut baigné leurs pieds et eut pris ses vêtements et se fut allongé de nouveau, il leur dit, vous connaissez ce que je vous ai fait. Vous, vous m'appelez de la voix le maître et le seigneur et vous dites bien, car je le suis. Jésus confirme donc les disciples dans leur perception de sa personnalité, de son rôle, de sa fonction. Si donc moi je vous baignais les pieds, le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez les uns des autres vous mettre à vous baigner les pieds. Car c'est un exemple que je vous ai donné, que je vous donnais, afin que comme moi je vous fis, vous aussi vous fassiez. Et cette péricope se termine par la formule en Amen, Amen, donc formule solennelle. Amen, Amen, je vous dis, il n'est pas de serviteur plus grand que son Seigneur, ni d'envoyé plus grand que celui qui le manda. Si ces choses vous les savez, heureux êtes-vous si éventuellement vous les faites. Donc, conclusion de cette formule solennelle en Amen, Amen, une béatitude. Il n'y a que deux béatitudes dans l'évangile de Jean, ici, en conclusion du lavement des pieds et en conclusion de l'épisode de Thomas, en contexte de résurrection, en Jean 20, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Je tiens surtout à m'expliquer sur le sens de l'exemple. Un exemple, je vous ai donné, afin que comme moi je vous fis, vous aussi vous fassiez. Il me semble que il faut éviter de réduire la portée de ces versets, de cette recommandation, justement à quelque chose qui serait de l'ordre de l'imitation encore trop morale d'un exemple extérieur. Le terme traduit par exemple dit quelque chose qui fait sortir de l'exemplarité pure et simple, hypodeigma. Un nom, un substantif qui est composé de hupo, qui veut dire sous, et deigma, qui vient de deignumi, montrer. Donc, je traduirais plus volontiers par suggestion. Je vous indique sous ce geste du lavement des pieds ce que vous avez à faire vous-même. Et non pas dans le sens d'un comme. De nouveau, d'imitation d'un exemple, d'un modèle, mais comme Rudolf Bultmann l'a bien montré, le comme johannique, nous l'avons déjà rencontré à d'autres occasions, est un comme de fondation, pas d'imitation. Donc, c'est un exemple, une suggestion que je vous ai donnée, afin que, sur le fondement même de ce que j'ai fait, vous fassiez vous aussi. Le même terme revient à plusieurs reprises, dans des sens d'ailleurs traduits différemment dans l'Épître aux Hébreux. On trouve par exemple l'utilisation de ce terme plutôt comme un type, hein, ou une figure ou encore un symbole. Donc, au fond, ce que je souhaite, c'est qu'on ne perde pas de vue l'appel à la créativité qu'il y a dans cette invitation de Jésus. Je n'ai rien contre le lavement des pieds le jeudi saint, le mandatum, hein, comme on dit, le commandement de faire comme Jésus a fait, mais il y a quelque chose de tellement unique dans ce geste qu'il faut essayer, non pas simplement de l'imiter de manière, on peut dire, un peu servile, mais d'une manière créatrice. Il s'agit d'essayer de trouver dans nos propres comportements ce qui rejoint la force de cette inspiration suscitée par le lavement des pieds. Et alors là, je reprends une belle idée de Dominique Hernandez, qui avait pris la parole sur Jean 13 dans ce cours, mais malheureusement, son intervention n'a pas été enregistrée, mais nous avons son texte. Elle dit, n'est-ce pas, elle intitule son travail sur Jean 13, « L'élévation des disciples ». Jésus hisse ses disciples à sa grandeur indépassable. Mais c'est une grandeur d'humilité. Jésus invite à la grandeur d'un Dieu si pauvre, si dépouillé, si nu, qu'elle défie toute conceptualisation et toute représentation. Elle s'incarne dans la chair de Jésus en un dénuement stupéfiant. Et évidemment, on ne peut pas ne pas aussi avoir présent à l'esprit, à travers la terminologie du Maître et du Seigneur, la terminologie de l'Alliance. Le Seigneur, c'est celui qui a pris l'initiative de l'élection d'Israël, et le serviteur, c'est le peuple élu, le peuple juif, le peuple d'Israël. Ici, de nouveau, il y a une sorte d'inversion des rôles. Jésus se met dans la position du serviteur, non pas pour y laisser ses disciples, mais pour les conduire à sa propre position de maître et seigneur, qui ne resplendit jamais mieux que dans cette humilité à laquelle il consent et à laquelle il invite à consentir également. Et une béatitude est à la clé, c'est-à-dire entrer dans cette disposition de faire ce que l'on a appris de Jésus, mettre en pratique ce qu'il a montré lui-même, rend heureux. Il a fallu ces versets 1 à 17 pour nous conduire à présent aux versets qui me semblent centraux du chapitre et qui portent sur l'élection du traître, les versets 18, 19 et 20. Mais de nouveau, ces versets, on pouvait s'y attendre, étant donné l'ampleur du message transmis à quelques énigmes. Non, au sujet de vous tous, je le dis, moi je sais lesquels j'élis, voilà le verbe de l'élection, c'est le verbe de l'élection d'Israël. Bara en hébreu, Enkaïn en grec. Je sais lesquels j'ai lis, mais c'est afin que l'écriture soit accomplie. Celui qui assimile mon pain leva sur moi son talon. Évidemment, il s'agit de savoir ce que signifie, non pas au sujet de vous tous, je le dis, moi je sais lesquels j'ai lis, appuyé par une citation par la formule d'accomplissement de l'Écriture et une citation explicite du psaume 41, verset 10. Pas facile. Et on retrouve de nouveau cette distinction entre des temps différents. À partir d'à présent, je vous le dis, donc l'à présent de ce qui se trame dans les limites même du chapitre 13, avant que cela ne devienne, afin que vous croyiez quand éventuellement cela deviendra que moi je suis. Alors, quand cela deviendra, beaucoup de nouveau sortent du chapitre 13 et se transportent à la passion, la mort et ou la résurrection. Donc, je crois qu'il faut vraiment essayer de comprendre ce qui doit encore devenir de nouveau dans les limites de ce que Jésus va encore faire et dire par la suite jusqu'au verset 38 du chapitre 13. Et donc, quand même, hein, l'enjeu, le verset tout à fait central, le verset 9, revient sur le cœur de la théologie johannique, afin que vous croyiez que moi, je suis, avec la reprise de cette formule, moi, je suis, ego eimi, que Jésus s'applique dans le quatrième évangile et qui est une réminiscence de la révélation du nom de Dieu à Moïse au buisson ardent en Genèse, en Exode 3, 14. Amen, amen, je vous dis, celui qui reçoit qui je manderai, il me reçoit, celui qui me reçoit, il reçoit celui qui me manda. Donc, comme pour le verset, je ne l'ai pas dit, mais pour le verset 16, il n'est pas de serviteur plus grand que son Seigneur, ni d'envoyé plus grand que celui qui le manda. Ce sont des versets ici, le verset 16 et le verset 20 que je viens de relire, qui sont situés ailleurs dans les traditions synoptiques, dans des discours notamment sur la communauté. Le quatrième évangéliste les place ici dans le contexte du chapitre 13, la scène et le lavement des pieds, pour bien nous faire comprendre aussi une des significations possibles de ces versets par rapport à l'utilisation qu'en font les synoptiques. Alors, non au sujet de vous tous, je le dis, moi je sais lesquels j'ai élus. Donc la question qui se pose est de savoir si Jésus, en disant cela, parle des disciples à l'exclusion de Judas. Ce qui, serait alors expliqué par la formule d'accomplissement de l'Écriture et la citation du psaume 41, 10. Mais là, il faut faire très attention, parce que, indépendamment du fait que je ne pense pas qu'on puisse soutenir qu'il y ait deux conceptions de l'élection possible, comme on le dit parfois, conception au ministère, une conception de l'élection au ministère et une conception de l'élection au salut. Je pense que le terme renvoie à l'élection d'Israël pour le salut du peuple et à travers le salut du peuple pour le salut de toutes les nations, pour l'humanité tout entière. Je crois que c'est ça le sens du verbe « élire ». Mais donc, si l'on pense que cette élection est réservée à tous à l'exception de Judas parce qu'il trahit, cela voudrait dire que l'élection n'est réservée qu'à ceux qui sont fidèles à l'Alliance. Et que donc tous les ceux qui se rendent infidèles aux clauses de l'Alliance seraient exclus et de l'Alliance et de l'élection, ce qui ne tient absolument pas à la lumière de tout l'Ancien Testament. Hein. Au contraire, toute l'Alliance est... Les grands textes de l'Alliance racontent à quel point Dieu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il a pris l'initiative gratuite d'appeler un peuple, reste fidèle à son Alliance à travers l'infidélité de son élu. Et tous les grands textes de la Nouvelle Alliance vont dans le sens d'une révélation de cette fidélité de Dieu à travers l'infidélité de son élu, parce que il est le Créateur. Son pardon à lui est indéfectible, parce qu'il est à la fois celui qui appelle son peuple pour sauver son peuple et l'humanité tout entière, tout en étant le Créateur. Son pardon est lié à son identité de Créateur-Père. Et donc, c'est une première manière de comprendre que, alors, l'Écriture s'accomplit pour vérifier cela, que Jésus lui-même ne va pas exclure en particulier l'un de ses fidèles de son élection parce qu'il le trahit, parce qu'il est infidèle à cette élection. Au contraire, moi je sais lesquels j'élis, veut dire je sais parfaitement à quoi je m'expose en choisissant ces hommes-là, y compris le traître et y compris Simon-Pierre qui va le renier, parce que c'est la logique même de l'alliance dans toute l'histoire biblique. Afin que l'Écriture soit accomplie, celui qui assimile mon pain leva sur moi son talon. L'Écriture est remplie de ces situations où le Seigneur ne reçoit pas en échange de son amour préférentiel une réponse adéquate. Sa fidélité de Dieu à l'alliance et à l'élection vient précisément de ce qu'elle est maintenue envers et contre toute infidélité possible. Et c'est cela, dans les limites même du chapitre 13, qui est illustré par la relation de Jésus à Judas, pas ailleurs dans les péripéties de la passion et de la mort, non, parce que la passion, la mort et la résurrection sont anticipées dans la scène. C'est ça le sens de l'Eucharistie, c'était déjà dit dans le chapitre 6 qui explicite le don des pains au moment de l'épisode qui conclut la première section de la vie publique de Jésus. L'Eucharistie, c'est précisément Jésus fidèle à son amour au moment où cet amour défaille de la part de ceux qui le suivent. Et le chapitre 13 déploie ce sens de l'Eucharistie dans des relations très concrètes de Jésus à ses disciples. Parce que je crois que c'est une des nouveautés du Nouveau Testament que de faire comprendre la réalité théologique divine de l'Alliance dans l'humain. Parce que le Verbe, la parole de l'origine, la parole qui est Dieu, s'est faite chair. Donc ça doit nécessairement se traduire dans des actes et des comportements concrets de relation aux autres. Et le verset 20 dit, n'est-ce pas, voilà, je pense que c'est pas négligeable de relever l'enseignement non plus. Celui qui reçoit qui je manderai, pourquoi le met-il là et pas ailleurs ? Pour bien suggérer, ce qui est très précieusement conservé dans la tradition catholique, le fait que le ministre reste valide dans l'exercice de sa mission, même quand il défaille. Celui qui reçoit qui je manderai, fût-il un traître, me reçoit, celui qui me reçoit, reçoit celui qui me manda. Donc Jésus a depuis toujours pris le risque de s'incarner dans ceux qu'il appelle, tout en connaissant leur fragilité, leur précarité et leur infidélité toujours possible. Validité du sacrement, même dans la déficience, la défaillance du ministre. Eh bien, pour le temps qu'il me reste, je voudrais maintenant honorer la portée des versets 21 à 38, qui est de nouveau immense, donc c'est un peu un défi. Mais Jean conserve de la tradition Matthieu-Marc, pour la dernière scène, l'inclusion littéraire entre l'annonce de la trahison et l'annonce du reniement. Amen, amen, je vous dis, un d'entre vous me livrera, verset 21. Amen, amen, je te dis, à Pierre, sur mon nom, un coq n'appellera pas de la voix jusqu'à ce que tu me renies trois fois. Donc, Jean conserve cela. Les synoptiques mettent l'Eucharistie comme la réponse de Jésus à la trahison de Judas et au reniement de Pierre. Comme le dit très bien Jacques Guillet dans ses pages sur la scène, que ce soit dans son livre « Entre Jésus et l'Église » ou « Jésus dans la foi des apôtres », le soir de la scène, Jésus pouvait encore partir, il pouvait encore fuir. Il ne le fait pas, donc il assume en toute liberté et toute conscience la mort violente qui l'attend. C'est ce qui donne son prix à l'Eucharistie. Il se donne tout entier à ceux qui ne le reçoivent pas. Ces choses les ayant dites, Jésus fut troublé en l'esprit et il témoigna et il dit. Donc, il ne faudrait pas croire que Jésus reste de glace là-dedans, que, comme l'a suggéré un disciple dissident de Bultmann, Ernst Käsemann, qui est par ailleurs un grand exégète du siècle dernier dans la tradition protestante, que Jésus serait un Jésus, en quelque sorte, un Dieu qui plane sur la terre, n'est-ce pas, une sorte de Jésus d'ossette qui ne respecterait pas sa sensibilité, son corps, son affectivité. Non, non, Jésus fut troublé, il y a un autre, et un autre unique emploi du verbe troublé, c'est au moment du retour à la vie de Lazare, au chapitre 11. Donc il est troublé, et il va enlever le trouble en l'assumant de ses disciples, dont il va encore être question au chapitre 14 ensuite, et il fut troublé en l'esprit. Donc il est là, l'esprit est explicitement mentionné comme lieu de la relation du Père et du Fils. Donc voilà, dimension trinitaire de toutes ces scènes. Il témoigna, donc il dépose à son tour son témoignage dans le prolongement de tout ce qui avait été dit précédemment sur le témoignage de Jean. Et témoigner se dit marturein, marturia en grec, donc c'est un témoignage martyr. Hein. Et alors là, évidemment, les versets sont importants parce que c'est la première fois que surgit alors le fameux disciple que Jésus aimait et qui apparaît comme une tache de lumière dans ce décor très sombre de la scène. Ils regardaient les uns vers les autres, les disciples, étant dans l'aporie, je traduis très littéralement le grec, n'est-ce pas, aporoumenoi. Ils sont vraiment stupéfaits, perplexes, bouleversés à leur tour, n'est-ce pas, au sujet de cette annonce de la trahison de l'un d'entre eux. Et alors, verset 23, il était reposant. Donc, ils sont en position autour donc de Jésus oriental pour un repas, n'est-ce pas ? Ils ne sont pas sur des chaises, ils sont sur des sortes de divans. Il repose, un d'entre ses disciples, dans le sein de Jésus, qu'aimait Jésus. Donc, il y a vraiment une forte insistance, n'est-ce pas ? Reposer dans le sein rappelle Jésus qui est le Fils unique tourné vers le sein du Père à la fin du prologue hymnique. Au fond, pour dire les choses rapidement et pour l'essentiel, le disciple que Jésus aimait, qui fait ici sa première apparition, est dans la bonne position pour comprendre ce qui se passe. Il va lire l'amour à partir de l'amour qu'il vit lui-même, qu'il reçoit de Jésus. Et comme je le disais, je suis de plus en plus convaincu, parce qu'ils apparaissent désormais tous les deux toujours ensemble, à partir du chapitre 13 et jusqu'au chapitre 21, le disciple que Jésus aimait, c'est le disciple idéal, c'est le disciple type, donc que nous avons tous vocation à être. D'une part, c'est la raison pour laquelle il reste anonyme, ce n'est pas un personnage historique dont il faudrait trop se préoccuper de l'identité passée. Et d'autre part, il représente aussi l'autre pôle complémentaire de l'autorité dans la communauté. Il y a l'autorité institutionnelle de Pierre, il y a l'autorité, on pourrait dire, entre guillemets, charismatique peut-être, hein, spirituelle, de l'amour. Et voilà, Pierre surgit immédiatement. Il fait signe donc à celui-là, Simon-Pierre, de s'informer sur lequel serait celui au sujet duquel il le dit. On voit bien, le verset est un peu tourmenté parce qu'il reflète aussi le tourment de ceux qui vivent la scène, n'est-ce pas ? Et s'étant allongé donc celui-là ainsi sur la poitrine de Jésus, ça fait quand même deux descriptions très détaillées et minutieuses du comportement de ce disciple. Il lui dit, « Seigneur, qui est-il ? » Il répond donc, « Jésus, celui-là, il l'est à qui, moi, je tremperai la bouchée et la lui donnerai. » Alors évidemment, on s'est beaucoup intéressé à ce geste, n'est-ce pas ? Je suis de plus en plus persuadé, pour ma part, qu'il s'agit là d'une réminiscence d'un texte d'alliance dans le livre de Ruth. Le livre de Ruth est un petit livre qui n'a l'air de rien du tout, mais qui est en fait très important parce que il illustre ce qui se passe quand on applique la loi du Lévirat, c'est-à-dire quand une épouse reste veuve d'un mari qui ne lui a pas assuré de postérité, le parent le plus proche est tenu d'épouser la veuve et de lui assurer une postérité au nom de son frère. Ça, c'est pour brièvement la loi du Lévirat. Comment fonctionne-t-elle dans le livre de Ruth ? Ben, d'une manière inattendue, parce qu'elle fonctionne dans le sens de Ruth la Moabite, une païenne qui est épousée par Boaz selon la loi du Lévirat, qui lui est un juif. Et donc, on fait d'une pierre deux coups. On fait d'une part allusion à un texte d'alliance, et en particulier, on fait allusion à une alliance entre une païenne et un juif. Donc, il y a là quelque chose de très synthétique de toute la révélation biblique. Au moment du repas, de nouveau, contexte de repas, Boaz dit à Ruth, « Approche-toi, mange de ce pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Ruth 2,14. Le vinaigre n'apparaît pas ici, mais il apparaîtra avec un relief étonnant à la croix, au verset pratiquement central de tous les chapitres 18 à 21, si on maintient ces chapitres unis. Trempe une éponge dans du vinaigre. Le vinaigre, c'est pas ce qu'on entend habituellement par le vinaigre dans nos langues. C'est une piquette, n'est-ce pas ? C'est un vin de peu de qualité. Et de toute façon, même s'il n'en prend pas comme chez les synoptiques, ce geste qui est aussi mentionné chez les synoptiques à la mort de Jésus est un geste de compassion de la part, on pense surtout, des soldats. Jésus, par contre, dans l'évangile de Jean, prend de ce vinaigre et c'est ce qui le conduit au télos de l'amour quand il dira, comme dernière parole sur la croix, « C'est achevé ». Alors, autour de cette bouchée, on voit bien, n'est-ce pas, l'auteur donne beaucoup d'importance à ce geste. Donc, que signifie-t-il ? Alors, je l'ai déjà identifié comme un geste d'alliance, et donc ce n'est pas du tout un geste de condamnation, mais encore. Ayant donc trempé la bouchée, il la prend et la donne à Judas de Simon Iscariote. Et après la bouchée, alors entra en celui-là le Satan. Il lui dit donc Jésus, ce que tu fais, fais-le plus vite. Plus vite, on dit souvent vite. Non, c'est un comparatif. Accélère. Ceci, personne ne connut de la part des reposants dans quel but il le lui avait dit. Certains pensaient, puisqu'il l'avait, la bourse, Judas, qu'il lui dit Jésus, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou aux pauvres qu'il leur donne quelque chose. Et donc, le verset 30 délimite cette péricope des versets 26b à 30, ayant donc pris la bouchée, troisième fois que l'expression est employée, celui-là, donc Judas, sortit aussitôt, c'était nuit. Alors, après la bouchée, alors entra en celui-là le Satan. Qu'est-ce que ça veut dire ? Indépendamment de ce qui suit immédiatement, occupons-nous d'abord de cette première partie du verset 27. Excusez-moi. Le Satan, c'est en quelque sorte un autre nom du diabolos. Le diabolos, c'est le diviseur. Le Satanas, c'est l'accusateur. Ça reviendra aussi dans l'Apocalypse. Celui qui accuse nos frères nuit et jour, au présent, pas au passé. On traduit souvent dans la version liturgique, il accusait nos frères. Non, non, il continue à accuser, n'est-ce pas ? Donc, de nouveau, le même principe de lecture qui a été employé pour le diabolos. Le grand responsable de la trahison qui anticipe tout le mystère pascal de passion et de mort de Jésus, c'est l'auteur du péché. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a là un appel à nous impliquer nous-mêmes, comme disent les narratologues aujourd'hui, n'est-ce pas, dans cette description. C'est arrivé à Judas, cela peut continuer à nous arriver à nous, parce que le Satan continue à accuser et le diabolos continue à faire son œuvre de diviseur. Voilà. Et donc, la question fondamentale est la suivante, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas de savoir qui est coupable pour verser dans la logique du bouc émissaire. C'est l'autre, c'est Judas, ce sont les autorités juives, ce sont les autorités romaines. Ah non, non, non. Cette logique du bouc émissaire nous met à distance de l'événement, alors que la question que veut poser la mise en relief du diabolos et du satanas dans cette manigance de la trahison signifie que nous avons affaire à des forces du mal qui continuent à opérer jusqu'à aujourd'hui, même si le salut est accompli et est acquis dans la mort et la résurrection du Christ. Et après la bouchée, alors entra en celui-là le Satan. L'entrée de Satan dans Judas est encore sous le contrôle d'un don. Jésus, alors ça c'est la terminologie traditionnelle, la volonté permissive de Dieu, enfin, j'aime pas trop l'expression, mais enfin, Jésus permet à Satan d'entrer dans son disciple pour qu'il le trahisse. Mais le don est premier, il est toujours présent et il sera dernier. Voilà, ça c'est capital. Sinon alors on s'enfonce dans la culpabilisation. Et ce que tu fais, fais-le plus vite. Ce n'est évidemment pas une condamnation de Jésus. Jamais le Nouveau Testament ne permet de dire de quelqu'un qu'il est damné. Jésus fait parfois des mises en garde très importantes. Il dira par exemple dans les synoptiques, n'est-ce pas, qu'il aurait mieux valu pour Judas qu'il ne soit pas né, hein, parce que bon, quand même, il a été l'instrument de sa condamnation à mort, qui a quand même été une affaire effrayante, n'est-ce pas, effroyable, mais jamais on ne s'est prononcé dans l'Église au nom même de Jésus sur la damnation de quiconque, parce que cela ne nous appartient pas. Et donc, l'enfer existe, l'Église l'a toujours maintenu contre toutes les tentatives de l'apocatastase, n'est-ce pas ? On supprime l'enfer, tout le monde est sauvé, on espère pour tous, on espère que tous soient sauvés. J'ai repris le titre du dernier livre de Balthazar traduit en français, « Espérer pour tous ». Donc, que le salut soit opéré en faveur de tous par le Père grâce à la médiation salvifique du Fils. L'enfer existe, mais il n'existe que pour moi. Personne ne sait qui s'y trouve. Je dois faire attention d'être prudent et vigilant parce que je peux sans cesse déchoir. Mais ce que tu fais le plus vite, n'accélère évidemment pas la damnation de Judas. Toujours été impressionné par le témoignage du premier grand interprète grec de l'évangile de Jean, Cyril d'Alexandrie, qui interprète cette parole de Jésus dans le sens de « accélère le salut ». Donc, le geste de Judas le geste de Jésus à l'égard de Judas qui le désigne comme traître, le désigne d'abord et avant tout comme la médiation dont Jésus va se servir pour révéler son amour jusqu'à la fin, jusqu'à l'achèvement. Mais les disciples ne comprennent pas. Donc ça, c'est quand même très impressionnant. Ce chapitre 13 brille de tous les éclats du Seigneur qui révèle son amour à l'égard de ceux qui ne lui répondent pas amour pour amour. Évitez aussi l'interprétation et la traduction d'Augustin, n'est-ce pas ? Ayant donc pris la bouchée, celui-là sortit aussitôt, il était lui-même nuit. Ah non, 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 ça alors on enfonce Judas dans les ténèbres et il est difficile de l'en sortir. Non, non, c'était nuit. Et alors, les versets qui suivent, quand donc il sortit ? Surtout ne pas couper à la sortie de Judas, n'est-ce pas ? Parce que la sortie de Judas dans la nuit correspond à la glorification du Fils de l'homme. En deux temps. Quand maintenant fut glorifié le Fils de l'homme, au passé. Trois fois le verbe glorifier au passif est employé à l'oriste passif. Maintenant fut glorifié le Fils de l'homme, Dieu fut glorifié en lui. Si Dieu fut glorifié en lui, Dieu aussi. Deux fois au futur, Dieu le glorifiera en lui et aussitôt il le glorifiera. Donc la lumière, lui dans la ténèbre, et la ténèbre ne la saisit pas, la lumière. Au contraire, elle est l'occasion pour la lumière de se manifester. Le verbe « glorifier » est un verbe qui relève aussi de la tradition apocalyptique, c'est le verbe que l'on emploie pour le martyr qui glorifie Dieu dans sa mort pour sa foi. En particulier, on peut trouver ça dans le texte grec de chapitre 3 du livre de Daniel et dans le cantique des trois enfants, n'est-ce pas ? Voilà, Dieu est glorifié dans la manière dont les siens meurent pour lui, au nom de leur foi. Et donc, il est glorifié en un premier temps, il y a un deuxième temps de la glorification, qu'on risque alors aussi de renvoyer au-delà des chapitres 13 à 17. On dit toujours, je l'ai encore vu récemment dans des publications, que le deuxième temps de la glorification, c'est en particulier la mort en croix de Jésus. Je ne pense pas, le verbe glorifier disparaît totalement des chapitres 18 à 21, sauf une seule fois en 21 pour désigner la mort martyre de Pierre. On sait que Pierre est mort martyr et donc il glorifie Dieu, comme le dit, n'est-ce pas, en particulier, Jean 21, je reprends rapidement le texte. Donc après le dialogue entre Jésus et Pierre au bord du lac de Tibériade, donc quand tu étais plus jeune, tu t'entourais d'une ceinture et tu marchais là où tu voulais. Quand tu vieilliras, tu étendras tes mains et un autre t'entourera d'une ceinture et te portera là où tu ne veux pas. Ceci, verset 19, il le dit, Jésus, signifiant de quelle mort il glorifiera Dieu. Mais Jésus est glorifié en entrant dans sa passion. Le deuxième temps de la glorification, il ne faut pas l'attendre ni dans la passion, ni dans la mort, ni dans la résurrection. On le trouve dans le chapitre 17, la prière glorifiante. Jésus est glorifié dans sa prière, dans l'acte même où il s'en remet à son Père totalement, il est déjà glorifié et il entre glorifié dans sa passion. Donc ça dédramatise aussi la passion, sans rien lui enlever d'aucun caractère outrageant ou humiliant, mais Jésus est déjà vainqueur du péché, de la mort, dans les limites du chapitre 13 et du discours de la scène qui se conclut par la prière de Jean 17. Et maintenant, il est en position de pouvoir aussi donner le commandement nouveau, parce qu'il est déjà retourné en partie auprès du Père. Il est glorifié. « Petits enfants, encore un peu avec vous je suis, vous me chercherez, et comme je le dis aux Juifs que là où moi je pars, vous, vous ne pouvez pas venir, à vous aussi je le dis à présent, très important dans la question du rapport du quatrième évangile aux Juifs, n'est-ce pas ? Jésus ne met pas les disciples à part, il ne les considère absolument pas comme meilleurs que les Juifs, il leur dit ce qu'il a déjà dit aux Juifs, et ils ne comprennent pas mieux, Pierre en tête, que n'ont compris les Juifs, donc très important. Et alors, un commandement nouveau, je vous donne, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé, que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres, en cela ils connaîtront tous que pour moi des disciples vous êtes, si de l'amour vous en avez les uns dans les autres. Un commandement nouveau, ce ne peut être que le commandement de l'alliance nouvelle, qui s'est déjà exprimé dans l'amour de Jésus pour qui ne l'aime pas. Et quand on dit donc, comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez les uns les autres, invitation est faite à aimer de l'amour même de Jésus, comme traduit très exactement Léon Dufour, mais en particulier en faveur de qui ne l'aime pas en retour. Sinon, on édulcore complètement le chapitre 13. Et on retrouve alors aussi une autre... Donc, dans le pardon implicite lié à ce commandement de l'amour, ce commandement nouveau, on retrouve aussi la dimension universaliste de la nouvelle alliance. Tous connaîtront que pour moi, des disciples vous êtes, si de l'amour vous en avez les uns dans les autres. Le signe de l'appartenance, le signe que les disciples prennent part à Jésus, c'est le commandement nouveau qu'ils mettent en pratique. Et cela leur est donné, c'est pas par leur force, pas par leur génie, pas par leur intelligence ou leur vertu, mais par pur don. Et on retrouve Simon, décidément, on ne lui fait pas la partie facile. Hein. « Seigneur, où pars-tu ? Là où je pars, tu ne peux pas maintenant me suivre, tu suivras plus tard. » Alors, de nouveau, maintenant, plus tard. Alors là, évidemment, le plus tard renvoie au chapitre 21, où alors on retrouve Pierre et Jésus au bord du lac de Tibériade, d'ailleurs au lieu même où avait eu lieu l'épisode des pains et le discours sur le pain de vie. « Seigneur, à cause de quoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Mon âme pour toi, je la poserai. » Donc de nouveau, cette expression qui avait été utilisée plusieurs fois par Jésus comme bon pasteur, il pose sa vie pour ses amis, pour ceux qu'il aime. « Mon âme pour ses brebis, mon âme pour toi, je la poserai. » Le don total de soi, et c'est aussi une expression qui dédramatise. Hein. l'amour absolu dans le fait de poser son âme, déposer. Il répond Jésus, et je lis la phrase comme une affirmation, non pas comme une mise en question, « Ton âme, pour moi, tu la poseras. » C'est une promesse. D'accord, oui, tu la poseras. Amen, amen, je te dis, sûrement non, un coq n'appellera pas de la voix que tu ne me renies trois fois. Et donc, j'ai retrouvé, grâce à un livre récent, à travers Jean, d'une certaine Marie-Hélène de Chalotte, la citation dont j'avais déjà entendu parler à propos du chant du coq. Il semble, dit-elle, que ce soit une expression courante pour dire l'arrivée de l'aube. On la trouve dans le traité Yoma du Talmud, le Talmud de Babylone 20a. Chaque jour, on enlève une partie de la cendre de l'autel dès le chant du coq. Le coq n'a pas encore chanté que le parvis était déjà plein de fidèles. Donc, en même temps, il y a là, me semble-t-il, un autre effet de dédramatisation. Le monde aurait pu s'écrouler avec ce reniement de Pierre, cette trahison de Jésus par Judas. Eh bien non, le monde